1986. Je me sentais encore moins à ma place dans cette nouvelle caserne. Plus grande, plus stricte, plus froide, j'y évoluais comme une intruse, une étrangère. Et ce sentiment se poursuivait en classe. L'école n'aime pas les artistes, les fantaisistes. J'aurais tant voulu y apprendre à jardiner, jouer de toutes sortes d'instruments de musique, chanter, cuisiner, voyager, danser, coudre, peindre, vivre en société. À la place des maths, du français, de l'histoire, de la physique-chimie. Et puis je n'ai jamais accepté les moules, sauf ceux de ma mère qui m'a appris à faire le meilleur 4/4 du monde. Mon père voulait que j'entre dans celui d'une scolarité classique et réussie. Je m'accroche pour lui faire plaisir. Il attend de moi de hautes études dans le sillage de mes frères aînés, déjà partis pour les plus grands en école d'ingénieur ou celle des officiers, comme lui. Je déteste ce qu'il fait et le peu que j'entends de ses missions me glace le sang. Je suis pour la paix dans le monde les petites fleurs au bout des fusils. Ma mère me dit que c'est parce que je suis née en 68, dans une époque peace and love. Elle m'explique que lui aussi veut le bien de tous, qu'il faut des militaires pour défendre les civils, et je ne la crois pas. Elle espère que je comprenne avec l'âge. En attendant, je subis les conséquences de l'engagement de mon père. J'ai appris à ne pas tisser de relations trop intenses, ni avec les filles, ni avec les garçons. Je sais qu'il faudra que je les laisse derrière moi à la mutation suivante. Poursuivre une relation à travers un échange épistolaire peut paraître exaltant les premières semaines, puis le romantisme s'espace avec le temps, les lettres deviennent rares et disparaissent sans que l'on s'en rende compte. Je ne dois pas avoir l'âme d'une George Sand. Je n'ai qu'une amie avec laquelle je corresponds désormais. Une seule. Peu importe la distance et la durée du silence, nous nous retrouvons toujours avec la même simplicité. Quant aux amoureux, je préférais ne pas leur infliger une rupture en raison d'un départ anticipé. De toute façon, les garçons que je côtoyais ne me touchaient pas. Je pensais souvent à celui aux grands yeux verts. Il m'inspirait, et depuis, j'étais en quête d'un semblant de magie équivalente. Entreprise vouée à l'échec. Du moins, je le croyais. Je flirtais par-ci par-là, pendant les booms. Si certains paraissaient plus séduisants que d'autres, je les trouvais vite immatures et je mettais fin à la relation avant de m'ennuyer, avant qu'ils ne s'attachent. Mes copines, tout aussi superficielles, voyaient en moi la fille indépendante et libre qui choisit qui elle veut. Moi, je me sentais comme un arbre qu'on déracine tous les 2 ou 3 printemps et qui préfère ne pas s'attacher au mauvais tuteur pour reprendre des forces. Ma maman en était un auquel tout le monde s'accrochait. Femme au foyer, elle travaillait plus que la plupart des hommes de sa génération. Je ne l'ai jamais vue craquer sous le poids des responsabilités. Je ne l'ai jamais vue détendue non plus. Sa ride du lion se creusait chaque année et son dos se courbait comme si elle avait entamé un processus irrémédiable de repli sur soi. Dans un autre genre, ma grand-mère m'offrait de la force et de la stabilité. Je me rendais chez elle à toutes les vacances scolaires, contrairement à mes frères. Il faut dire que cette demeure était bien trop petite pour accueillir une fratrie comme la nôtre. Après la guerre, alors que mon grand-père y avait perdu ses 2 pieds, ils avaient acheté une maison dotée d'une boutique qui donnait sur la promenade, en bord de mer, dans la jolie station balnéaire du Val-André. La pension de guerre de son mari ne suffisant pas, ma grand-mère avait ouvert une mercerie et proposait en parallèle de menus travaux de couture pour les vacanciers. Mon grand-père se cantonnait à vivre dans le petit appartement à l'étage au-dessus du magasin, tant il était laborieux de monter et descendre les escaliers, ce à quoi il parvenait cependant chaque dimanche pour arpenter la longue promenade dans son fauteuil roulant. Il réalisait quelques travaux de cordonnerie pour s'occuper et passer une grande partie du temps sur la terrasse qui surplombait le front de mer. Le bercement des vagues apaisait les douloureux souvenirs des combats qui ne le quittaient pas. Au fil du temps, ma grand-mère transforma son activité pour devenir fleuriste. Elle créait des bouquets magnifiques, harmonieux, originaux. Et puis un autre fleuriste s'est installé dans la rue d'à côté. C'était moins joli mais moins cher. Alors ma mère a encore changé d'activité en fabriquant des biscuits à partir d'une recette héritée de sa mère qui la tenait elle-même de son aïeul. Bretonne de génération en génération, elle maîtrisait le sujet. Je n'ai jamais compris comment, à partir d'ingrédients basiques, elle arrive à préparer des gâteaux aussi bons. Peut-être le beurre artisanal produit dans une ferme voisine. Peut-être le réglage du four. Peut-être un peu d'amour. J'espère un jour percer ce secret pour réussir moi-même des biscuits aussi croustillants, aussi dorés et qui laissent un petit goût d'enfance dans la bouche. Si je n'ai pas connu la mercerie, mamie m'a quand même appris la couture et puis les fleurs et les gâteaux. Je pesais les ingrédients sur la balance Roberval avec les poids de différentes tailles. Je les ajoutais à la jatte dans laquelle elle les mélangeait de ses mains enfarinées. Elle étalait la pâte sur une épaisseur dont la régularité frôlait la perfection et me laissait ensuite y enfoncer des emporte-pièces de diverses formes. Je restais le nez collé à la vitre du four pour surveiller la cuisson pendant qu'elle préparait une nouvelle fournée, et gare à moi si je tardais trop à la prévenir quand ils étaient prêts. Bien sûr, elle ne me laissait jamais rater ce moment, tout en me faisant croire que j'en portais la responsabilité. J'attendais, mon pinceau à la main et un jaune d'œuf battu dans un vieux bol ébréché, prête à badigeonner les surfaces brûlantes et les voir devenir brillantes en quelques secondes. J'aimais également servir au magasin, peser et encaisser, calculer pour rendre la monnaie, seul moment où je trouvais les mathématiques utiles. Il nous arrivait de retirer des plateaux entiers de gâteaux trop cuits. Nous jouions, nous rions, nous parlions avec une cliente bavarde et la fournée devenait secondaire. Une boîte métallique accueillait ces gâteaux trop foncés que mon grand-père aimait grignoter, le visage offert aux embruns sur la minuscule terrasse. Il avait appris la faim, le froid, les aliments périmés. Il ne supportait pas l'idée de jeter ses biscuits pas tout à fait brûlés. Papé savourait leur petit goût de liberté, cette liberté dont il avait tant rêvé en mangeant sa nourriture avariée dans les camps retranchés. Parfois, je tentais quelques variantes dans la recette. Certaines fournées furent heureuses et d'autres un peu ratées. Mon grand-père les mangeait quand même. Je rêve de pouvoir un jour prendre la suite de l'activité de ma grand-mère. À mes yeux, sa situation était idyllique. Le bord de mer, les grandes marées, les galets, les ciels chargés, le verre de lait au bout de la baie, les clients, les vacanciers, l'odeur des biscuits, le plaisir de les emballer, d'entendre la clochette de la boutique, en tourner la clé le soir sur une journée de labeur enchantée. À cette époque, je rentrais de ces vacances le cœur serré, avec pour seul plaisir consolatoire de retrouver ma mère et mes frères, du moins ceux encore présents sous notre toit. Recommençait alors le compte à rebours avant les congés suivants et la perspective d'y retourner. J'aimais chez ma grand-mère cette indépendance acquise à marche forcée et ce petit grain de folie que je sentais dans chacune de ses recommandations à mon égard. J'eus par ailleurs la chance qu'elle m'accorde sa grâce vestimentaire en y apportant sa touche de féminité. En bonne petite dernière, j'héritais de la plupart des vêtements que mes frères n'avaient pas réussi à user. Ma mère gérait son budget serré avec une grande dignité et préférait opter pour des repas de qualité que pour quelques frivolités en tissu. J'endossais donc jusqu'au collège une tenue de camouflage faite de pantalons, de pulls trop larges, de t-shirts informes et de vestes masculines. Ma grand-mère prit les choses en main avant mon entrée en sixième. Lors des vacances d'été, elle sortit de sa vieille armoire en merisier tout ce qui pouvait m'aller. J'étais grande pour mon âge et elle, petite depuis toujours. Des pièces neutres qu'elle agrémenta de boutons, de rubans, de petites broches crochetées, d'empiècements colorés. De son ancienne activité, elle conservait une réserve dans une énorme malle que j'appelais son trésor de pirate. Elle compléta l'ensemble de quelques vêtements achetés sur le marché hebdomadaire du village, le tout dans une harmonie dont elle avait le secret. À la fin de l'été, j'étais repartie avec une valise pleine de pièces bien à moi. Elle me prépara en parallèle à être fière d'afficher ma fantaisie et m'apprit à laisser glisser les moqueries et les quolibets éventuels comme l'eau sur les plumes d'un canard, en me disant qu'il fallait prendre exemple sur lui. Paraître impassible en surface, sans jamais perdre le rythme en profondeur pour avancer. Je fis donc le canard durant l'année de sixième, avec quelques piqûres de rappel en guise de soutien à chaque période de vacances en bord de mer. En passant en cinquième, j'étais vaccinée contre tout jugement négatif à mon encontre, ce qui forçait l'admiration de mes copines vulnérables au moindre regard. Certaines essayaient de copier mes tenues, mais au milieu de leur terne garde-robe, les accessoires colorés les desservaient plus qu'ils ne les égayaient. Et puis elle n'avait pas ma grand-mère. Cette femme m'a forgé une âme solide dans un cœur enjoué, et je ne la remercierai jamais assez. Elle va me manquer. Toi aussi.